Des Panama Papers à même pas peur du Panama.
Du printemps de Prague à l'automne à Pékin.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 22e numéro de Carrément Méchant. Nous sommes le 13 avril 2016 et avec moi toujours la sémillante Émilie.
Oui bonjour, toujours enfin parce qu'on a eu un petit problème d'horaire. Mais enfin nous sommes là.
Personne ne peut le savoir qu'on aurait dû enregistrer à 9h30 du matin et pas 9h30 du soir.
C'est-à-dire que 9h30 du matin pour moi ça n'existe pas. Mais
Ça s'appelle dormir.
Voilà, c'est autre chose. Enfin bref, toujours est-il que nous sommes là, nous sommes en pleine forme.
Oui.
Et nous allons vous raconter ce qui s'est passé dans l'actualité internationale ce mois dernier.
Exactement, et tu vas commencer par nous emmener, eh bien tiens, quelle surprise, c'est très original et ce n'est pas du tout la première fois, au Pakistan.
Oh ça va, hein, le mec il parle tout le temps de la France, hein.
Non, je parle tout le temps des primaires des États-Unis, il faudrait suivre un peu quand même.
Oui, et d'ailleurs tu vas nous en reparler aujourd'hui.
Exactement, juste après, ton sujet donc sur le Pakistan.
En fait je vais vous parler du terrorisme, alors ouh, grosse surprise le Pakistan. Mais enfin bref, au moins je vais pas vous parler des attentats de Bruxelles ou de Salah. Islam, etc., etc., on en a entendu assez parler. Et ne vous en faites pas, je ne vais pas non plus vous faire la morale par rapport au fait que vous devriez être aussi indigné par les morts du Pakistan que les morts français ou les morts belges, parce que franchement, sinon vous êtes des salauds. Ce n'est pas mon propos. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui se réjouissent des attentats. Oui, alors, forcément, les groupes terroristes, hein. Et puis peut-être deux ou trois extrémistes, certes non violents, mais tout de même mal intentionnés, qui rigolent bien depuis chez eux. Mais voilà que l'attentat de lundi de Pâques à Lahore, qui a fait 72 mortes et 370 blessés, dont une grande majorité d'enfants, puisque c'était dans un parc d'attractions, a fait des heureux parmi l'armée du Pakistan elle-même. Alors, pourquoi est-ce que l'armée du Pakistan était contente de cet attentat? Eh bien, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé ici, parce que forcément, les gens s'en foutent un peu de la politique domestique du Pakistan, et pourtant, vous devriez vous en intéresser. Enfin, pas parce que ça va changer votre vie, mais parce que c'est assez pétillant comme histoire, il y a plein de rebondissements. Alors, il faut savoir que le Pakistan a une histoire de coup d'état militaire qui est absolument merveilleuse. À peu près tous les 5 à 10 ans, voilà, il y avait le président ou la présidente se faisait démettre par un coup d'état. Et puis, dans les dernières années, ça s'est un peu calmé. Et on a eu, je sais même plus si c'était 2012 ou 2014, mais on a eu la première transition démocratique que le Pakistan ait connu, c'est-à-dire qu'un gouvernement démocratiquement élu a passé le pouvoir à un autre gouvernement démocratiquement élu. Et c'était vraiment la fête là-bas. Alors il faut savoir qu'après l'attentat de lundi, donc à Lahore, qui est dans l'état du Punjab, l'armée a décidé unilatéralement qu'elle prenait le contrôle de la province du Punjab. Alors jusqu'à maintenant, l'armée et l'état-major militaire avaient le contrôle au niveau fédéral, de la politique étrangère, de la politique nucléaire et du contre-terrorisme à Karachi, ainsi que du contre-terrorisme dans les zones frontalières avec l'Afghanistan. Le reste du pays était gouverné, donc, par le gouvernement civil, le reste du pays étant, disons, le Punjab, plus ou moins. Et le Punjab, c'est la province la plus peuplée du Pakistan, qui est au centre du pays et qui est aussi la province de laquelle est issu le premier ministre actuel, M. Nawaz Sharif. Alors vous vous dites déjà que pour un pays qui se dit avoir un gouvernement démocratiquement élu, c'est un peu étrange que l'armée contrôle les trois quarts des choses. En effet, c'est vrai, mais dites-vous que c'est déjà un énorme progrès par rapport à ce qui se passait avant. Enfin bref, après l'attentat de lundi, l'armée a décidé qu'elle prenait à son tour, en fait, contrôle de la politique sécuritaire de la province du Punjab, sans consulter le gouvernement. Sans consulter le gouvernement, pas du tout. Sans que le gouvernement n'ait invité l'armée à le faire, ce qui revient, en fait, à une sorte de mini coup d'État, en fait, au niveau infra-fédéral, si vous voulez, puisque le mouvement de l'armée s'est fait sans aucune base légale, ni constitutionnelle, ni politique. Et tout de suite, ils ont commencé à faire le ménage avec des multiples arrestations qu'on compte pour l'instant par centaines. Et le gouvernement, quand on l'a interrogé sur les activités de l'armée, n'avait simplement aucune idée de la stratégie qui était en place, montrant simplement que l'armée n'avait absolument pas communiqué leurs intentions avec le gouvernement du Punjab. Alors, la prochaine fois qu'on nous parlera de... Enfin, on dit que la plus grande démocratie d'Asie du Sud-Est est l'Inde, avec plus d'1 milliard d'habitants. Mais le Pakistan a environ... c'est quoi, c'est 180 millions, je crois, d'habitants. C'est quand même pas rien non plus. Et la prochaine fois qu'on vous racontera que le Pakistan est une démocratie, vous pourrez rigoler un peu moins fort. Alors il faut savoir aussi que l'armée pakistanaise, en fait, a toujours eu cette tendance sympathique de lutter contre le terrorisme en divisant pour régnant, c'est-à-dire en faisant copain-copain avec certains groupes pour les tourner contre d'autres groupes qui étaient la plupart du temps, c'était les méchants indiens. Et du coup, ils pouvaient faire leur sale boulot par des militants terroristes. Alors maintenant qu'ils ont pris contrôle de l'État du Punjab, sous prétexte de l'échec, en fait, du contre-terrorisme civil, la grande question est de savoir s'ils vont soutenir leurs anciens copains et disons plus ou moins coopter les groupes militants dans le Punjab, ou alors enfin retourner leur veste et faire ce qu'ils étaient censés faire depuis le début, c'est-à-dire disons péter la gueule de ces connards qui vont buter des enfants dans un parc d'attractions le lundi de Pâques. Affaire à suivre, je vous promets de vous reprendre avec moi au Pakistan dans les prochains épisodes, mais je trouvais que comme cet aspect-là n'était pas du tout couvert par les médias qui étaient bien trop occupés à discuter d'homo chapeau et d'autres choses comme ça, au moins maintenant vous êtes éclairés, vous êtes au courant, vous savez ce qui se passe. Et je passe la parole à Yann qui va vous éclairer sur un autre sujet qui est peut-être un peu plus discuté dans les médias, et c'est les primaires américaines. Alors Yann, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, le grand jeu des primaires américaines continue. Depuis notre dernier numéro, de nombreux candidats ont suspendu leur campagne, des scrutins ont eu lieu et rien n'a vraiment changé en fait. Côté républicain, c'est toujours la moumoute parlante, Donald J. Trump, qui tient la première place. Attention, s'il a bien remporté 712 délégués, il lui en faudra 500 de plus pour obtenir l'investiture du parti. Vu que Ted Cruz, son concurrent direct, dispose d'un nombre non négligeable de délégués, 516, et du soutien d'un grand nombre de candidats ayant eux-mêmes suspendu leur campagne, tels que Jeb Bush, Scott Walker, Lindsey Graham, mais aussi Mitt Romney, on peut sérieusement douter de la capacité de Trump à atteindre son objectif de 1237 délégués. D'autant que, si aucun candidat ne remporte cette fameuse majorité de délégués, le parti républicain devra tenir, lors de sa convention d'investiture, un vote spécial qui décidera d'un seul coup de l'heureux élu, et où n'importe qui, y compris des candidats s'étant retirés, comme Mike Huckabee, ou des politiciens ne s'étant même pas présentés pour cette élection, comme Paul Ryan, pourront concourir. On appelle ça la Brokered Convention, ou convention contestée. En tant que feuilleton, ça va être délicieux à suivre. Comme méthode de sélection pour un des deux plus grands partis politiques des États-Unis d'Amérique, une telle perspective, elle est assez ridicule. Heureusement, il n'y a pas que Trump et Cruz dans la vie. Autoproclamé républicain modéré, John Kasich est tout de même sacrément conservateur. Ce curieux bonhomme est bon dernier en termes de délégués, il n'en a remporté que 143, moins que Marco Rubio qui a pourtant suspendu sa campagne il y a quelques semaines déjà. Mais voilà, Monsieur Kasich a décidé de se maintenir et de poursuivre aussi longtemps que possible sa campagne. Bref, si vous voyez un mec au regard triste entre Trump et Cruz dans des débats télévisés sur CNN, sur Fox News ou sur ABC, c'est lui, c'est Kasich. Du côté de ceux qui ont abandonné, on rentre évidemment Chris Christie et Ben Carson, de virulents critiques de Donald Trump, qui ont finalement décidé de se joindre à sa cause. Marco Rubio a également lâché l'affaire, même s'il est pressenti pour refaire surface en cas de convention contestée. La convention contestée, parlons-en plus en détail justement. À ce stade de la campagne, trois scénarios sont possibles. Scénario numéro 1, Trump remporte la plupart des délégués restants et atteint le plancher pour décrocher l'investiture républicaine. C'est un scénario qui a ses chances d'arriver, même si ce n'est pas forcément la solution évidente. Scénario numéro 2, Cruz gagne la totalité, et je dis bien la totalité des super délégués et des délégués restants. Il remporterait donc l'investiture. Attention, s'il en laisse filer ne serait-ce que 70 ou 70 sur les 769 encore en jeu, ça n'arrivera pas. Étant donné que la moitié des États concernés sont à la proportionnelle, on peut aisément considérer qu'il est foutu pour gagner à la loyale. Scénario numéro 3, Trump ne remporte pas assez de délégués et Cruz ne réalise pas de miracle. Dans ce cas-là, hop, convention contestée. N'importe qui peut se présenter, le parti vote lors de la convention et dès qu'un candidat récolte la majorité, bim, monsieur aura le droit de défier la ou le démocrate en novembre. Hein ? Pas de scénario 4 favorable à Kesich ? Non. Rappelez-vous, avec ses 143 délégués, il ne peut mathématiquement pas remporter l'investiture normalement. Il faudrait que l'establishment du parti appelle à voter pour lui lors d'une convention contestée et que les délégués le préfèrent à quelqu'un de plus populaire tel que Marco Rubio ou Jeb Bush. Même Jeb Bush. Pauvre Kesich, vraiment. Côté démocrate, me demanderez-vous, les yeux pleins d'espoir, que se passe-t-il ? Strictement rien.
Ouais, enfin non,
rien, mais rien d'intéressant, pour être précis.
Alors c'est pas ce que diront les supporters de Bernie Sanders, ne seraient pas d'accord avec toi.
Ils sont optimistes, ils ont raison d'être optimistes, parce qu'ils sont, tu vas voir, ils sont dans une situation qui est pas détestable, mais pour autant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution, comme tu vas le voir. Hillary Clinton est toujours en tête et bénéficie toujours du soutien de ses super délégués attribués d'avance. Bernie Sanders continue de créer la surprise en remportant un nombre honorable d'États et de délégués. Bref, comme depuis le caucus en Iowa, premier scrutin des primaires, Sanders est toujours en situation de créer la surprise et de renverser Madame Clinton. Reste que pour l'instant, elle tient toujours le haut du pavé en termes de délégués. Il lui en faut 2383 pour remporter la primaire. Sanders en a 1086, Clinton en a 1305, auxquels s'ajoutent les 31 délégués, superdélégués pardon, de Sanders et les 469 superdélégués de Clinton, superdélégués qui auront toujours la possibilité de retourner leur veste au cas où la majorité des délégués normaux seraient finalement tenus par Sanders. Bref, tout est encore possible, toujours rien n'a changé du côté démocrate. Primaire américaine 2016, faites vos jeux, rien ne va plus. On se donne rendez-vous au prochain numéro de Carrément Méchant pour le prochain point sur cette merveilleuse petite histoire. Voilà.
Moi, j'ai quand même envie de te demander, Yann, quels sont tes pronostics à toi avec tes tripes, voilà.
Des trois scénarios que j'ai développés, je pense sincèrement qu'aujourd'hui la convention contestée est ce vers quoi on se dirige. Premièrement, parce que les dirigeants du parti sont très favorables à ça, parce que ça permet d'éviter Trump. Ça permettrait même justement de rebattre les cartes et de mettre quelqu'un comme Paul Ryan. On parlait même à un certain moment de Mitt Romney, même si lui n'a pas vraiment envie d'y retourner. Bref, ou quelqu'un d'autre dans le parti républicain fasse enfin le front anti-Trump qui a mis trop longtemps à se faire et pour le coup ce qui se fait autour de Cruz qui lui-même n'est pas apprécié au cœur du parti républicain d'ailleurs quand je vous ai parlé tout à l'heure de Lindsey Graham qui a finalement rejoint notre ami Cruz pardon pas Trump non mon Dieu c'est justement Carson et Chris Christie qui ont rejoint Trump en se contredisant un petit peu à quelques semaines d'écart. Non, Lindsey Graham a soutenu Cruz parce que Cruz est ce rempart anti-Trump. C'est quelque chose, c'est un spectacle extraordinaire à suivre.
En effet.
Et encore une fois, que ce soit à la lorgnette des late shows ou même à la lorgnette de l'actualité normale, c'est extraordinaire dans le mauvais sens ce qui est en train de se passer. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue démocratique, c'est une catastrophe. C'est vraiment improbable. Les gens sont très peu représentés. Je veux dire, le mec qui est en tête, c'est le mec qui a le plus d'opinions négatives dans son propre camp politique. Mais étant donné qu'il a la plus grosse tranche, il continue d'être le front-runner, il continue d'être le mec qui est en tête.
Ouais, c'est les miracles de la démocratie. Hein.
Donc Trump est dans un gros paradoxe, et si Trump va l'élection générale, c'est-à-dire à l'élection présidentielle, le gros problème, c'est qu'il est clairement détesté par le peuple américain en général, et que du coup, il mènera le parti républicain à sa perte, et pour le coup, tous les membres de l'exécutif du parti républicain, quand ils disent que Trump peut être une catastrophe pour le parti républicain, pour une fois, ils n'exagèrent rien, et effectivement, ça peut être pour l'appareil républicain un très gros coup dur si jamais Trump remporte l'investiture.
Oui.
En termes de crédibilité notamment, mais aussi en d'autres termes. Bref, voilà ce que je pouvais dire.
Ouais. Et puis on peut encore conseiller à nos auditeurs d'aller regarder la fausse une du Boston Globe qui est quand même le Boston Globe, enfin, je sais pas, c'est peut-être l'équivalent de je sais pas de quoi c'est l'équivalent. En termes purement de tirage et d'influence, peut-être de Libération ou un journal comme ça, c'est pas un des tout grands journaux, mais quand même, a imprimé une fausse une, selon qui se passerait, je crois, je sais plus, en avril 2017, c'est-à-dire après que Trump soit hypothétiquement élu président. Et. Alors, très hypothétique, bien sûr, mais c'est quand même un message politique hyper fort que le Boston Globe a fait passer en imprimant. Vraiment, c'est pas uniquement dans la version digitale, hein, c'est version papier. Une fausse une qui imagine ce qui se passerait si Trump avait été élu président. Alors on parle de déportation, on parle d'économie qui se pète la figure. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment fait fort et c'est assez couillu, en fait, je trouvais ça. D'ailleurs, on les retrouve, c'est ceux qu'on retrouve dans le film Spotlight, quelques années auparavant, qui est un très bon film et qu'on vous conseille.
Très bien. Eh ben écoute, Émilie, tu vas nous emporter vers des leaders élus, eux. Enfin, élus.
Oui, enfin, élus. Oui, c'est vrai, non, ils sont élus. Enfin, certains, plus
je
ou
sais
moins.
Pas s'ils sont élus, mais en tout cas, vu le nom du pays, ils sont populaires.
Voilà, alors c'est vrai qu'ils sont populaires tous, dans tous les sens du terme. Et puis, pour une fois, en fait, je sais pas si ça a été dit clairement dans cette émission, mais en fait, moi, je suis à Prague. Actuellement, j'étudie à
oui.
Prague. Et donc, pour une fois, peut-être pour la première fois, je me souviens pas, je vais vous emmener avec moi à Prague. Alors, que s'est-il passé à Prague ? Des bières ont été bues, la rivière a coulé sous les ponts, rien de bien nouveau. Mm-hmm. Mais pourtant, la semaine passée, et d'ailleurs accidentellement le jour de mon anniversaire, hein, il s'est passé un truc assez incroyable à Prague et du point de vue géopolitique. C'est-à-dire que le président chinois a rendu visite au président tchèque.
Alors, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ?
Oui, bon, alors là, voilà, là tu détruis tout mon sujet, Yann. Hein. Merci. Non, mais alors je vais juste.
Pour une fois que c'est moi.
C'est bon, alors c'est de bonne guerre. Non, mais je pense que c'est quand même intéressant. Alors, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si on me laisse faire mon
mais
sujet,
voilà.
Peut-être qu'il deviendra intéressant. Hein,
ah.
Voilà. Et donc le président chinois qui rencontre le président tchèque, vous direz, bon, bah voilà, c'est normal, les chefs d'État rencontrent d'autres chefs d'État. Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Mais alors en fait pas du tout. C'est que la visite de Xi Jinping, je vais un peu écorcher son nom pendant tout ce sujet, est un gros doigt d'honneur aux États-Unis et à l'Union européenne. Alors tout de suite là, je vous sens plus intéressé, je vous sens accroché à vos
oui.
à vos haut-parleurs. Oui, merci Yann. Je sais que tu me soutiens. Alors il faut savoir que Xi Jinping était en route vers les États-Unis pour attendre un sommet sur le nucléaire. Et il a fait une étape en Europe. Donc sur ce trajet. Non pas en France, non pas chez Merkel, même pas chez Cameron. Non, Xi Jinping s'est arrêté à Prague et uniquement à Prague. C'était sa première visite depuis 67 ans et surtout, c'est sa première visite en Europe de l'année. Alors si vous suivez un tout petit peu l'actualité diplomatique internationale, ces visites, même si c'est beaucoup de poignées de main et puis de jolies photos, c'est quand même des messages politiques très importants. Alors, pourquoi est-ce que Xi Jinping s'est arrêté à Prague ? Et ça a tout à voir avec le président tchèque, qui s'appelle Miloš Zeman. Alors, c'est un alcoolique notoire, c'est un fumeur à la chaîne, qui est bien connu pour ses positions anti-allemandes et pro-russes, donc un vrai beau produit de la guerre froide comme ça. Alors, Zeman, en fait, cherche à faire copain-copain avec la Chine, et avec la Russie aussi, parce que ça va ensemble un peu, c'est comme le shampoing, c'est deux en un comme ça. Et il a fait très plaisir à Xi Jinping l'année passée, quand Xi Jinping a organisé une énorme parade militaire à Pékin pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aucun chef d'État européen ne s'est rendu à cette parade. Aucun, sauf le seul, le vrai, le beau Miloš Zeman, qui a été donc à Pékin. Et Xi Jinping a tellement apprécié cette marque d'amitié qu'il lui a rendu visite cette année à Prague. Alors, c'est assez exceptionnel aussi du point de vue de l'histoire de la République tchèque, parce que si vous avez suivi un peu, c'était donc un pays qui était occupé par la Russie après la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui est devenu une république socialiste, et qui a donc quitté le socialisme avec fracas dans les années 90. Et à ce moment-là, le président de la République tchèque, M. Václav Havel, était vraiment un grand défenseur des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui a reçu le Dalai Lama plus de 4 fois à Prague et qui avait complètement redirigé la politique étrangère de la République tchèque en fonction justement de son respect des droits de l'homme et de son humanisme et qui poussait vraiment pour l'intégration européenne. Alors le président actuel, Miloš Zeman, il s'en fout comme de sa première chemise, hein. Et il déploie des trésors de l'échage de cul envers la Chine et la Russie, donc aux grandes dames de l'OTAN et de l'Union Européenne. Soit dit en passant, l'OTAN voulait déployer des missiles anti-balistiques depuis la République tchèque, et enfin bref, ça n'a pas marché, mais c'est aussi grâce à du lobbying, en fait, de pantins pro-russo-chinois comme M. Zeman. Alors, donc, M. Zeman, une vision assez intéressante de la Chine, lors d'une visite à Pékin en 2014, il avait affirmé vouloir apprendre de la Chine en termes, je cite, de croissance économique et de stabilité politique.
Ah bah oui.
Oui. Alors croissance économique, certes, voilà, bien sûr. Mais stabilité politique, on hausse un peu les sourcils. Enfin bon, le bonhomme est entouré d'un nombre de scandales de corruption qui sont tellement nombreux qu'on perd le compte, en fait. Même les Tchèques ne savent plus très bien où on en est avec tout ça.
Puis, croissance économique, il se fout un peu de la gueule du monde, parce que, enfin, je veux dire, ouais. C'est pas du tout le même contexte. C'est pas du tout le même contexte économique. Il va pas désindustrialiser son pays pour le réindustrialiser ensuite.
Alors moi je pense que Monsieur Zeman aurait beaucoup besoin de discuter avec des gens qui lui apprennent un peu deux, trois choses sur la politique internationale, mais enfin, tu verras, pour l'instant, il a bien tiré son épingle du jeu, même si ça a l'air assez idiot. Alors cette année, il a aussi déclaré à la télévision d'État chinoise, donc durant la visite de la semaine passée, que les relations entre les deux pays avaient souffert dans le passé, car les États-Unis et l'Union européenne avaient fait pression sur la République tchèque. Alors c'est une phrase qui peut avoir l'air de rien comme ça, mais diplomatiquement, c'est vraiment une bombe. Et c'est comme je vous le disais avant, c'est un énorme doigt d'honneur, non seulement directement aux États-Unis et à l'Union européenne, mais aussi sur son prédécesseur, Václav Havel, qui est en fait toujours considéré comme une sorte de héros en République tchèque, enfin surtout à Prague, mais qui était un héros humaniste, voilà, des droits de l'homme, etc., qui avait libéré le pays du joug communiste. Et tout à coup, on décide que c'était plus juste un pantin, en fait, de l'Occident. Donc on retrouve cette rhétorique assez poutinesque, en fait, de pression occidentale sur les pays libres. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce rapprochement entre la République tchèque et la Chine? Il y a des choses assez triviales, comme l'ouverture d'un centre de médecine traditionnelle chinoise à Prague, voilà, ainsi qu'une ligne aérienne directe entre Prague et Pékin, ce qui est quand même un peu plus conséquent. Et puis, il faut savoir aussi que ça s'inscrit dans une stratégie chinoise de renaissance de la route de la soie. Alors la route de la soie, voilà, vous savez probablement de quoi je parle, c'était une... Ils ont eu des lignes commerciales très importantes dans le passé et que Xi Jinping essaye de revitaliser, enfin à la sauce moderne, et il appelle ça, c'est assez marrant d'ailleurs, au lieu d'appeler ça route de la soie, qui était assez jolie et assez poétique, il appelle ça One Belt, One Road, ou bien Belt and Road, ce qui veut plus ou moins dire ceinture et route. Donc la stratégie ceinture et route, moi je trouve qu'il aurait pu garder route de la soie ou trouver autre chose, enfin, je sais pas, route du pétrole, enfin même route du pétrole c'est plus joli que ceinture et route. Enfin,
la stratégie chemin et cravache.
Voilà, qui vise à stimuler les exportations chinoises d'une économie qui bat un peu de l'aile actuellement, par une multiplication des partenariats économiques et des investissements plus ou moins le long de l'ancestrale route de la soie. Alors, il lui fait faire un petit détour par Prague parce que ça lui convient bien. Alors, pourquoi est-ce que ça convient bien à M. Xi Jinping? Eh bien, il faut savoir que la Chine a quand même envie d'avoir une certaine influence dans les décisions occidentales et dans la politique internationale qui est pour l'instant quand même toujours dominée par un espèce de conglomérat américano-européen. Et la République tchèque étant un membre de l'Union européenne, c'est très très bien si la Chine peut en fait se la mettre dans la poche de la même manière que la Russie est en train de se mettre dans la poche non seulement la République tchèque, mais aussi, essaye de se mettre dans la poche les États baltes, la Pologne, etc., etc., la Serbie. Donc c'est vraiment un espèce de jeu d'influence comme ça qui se trame selon en fait la stratégie bien connue du salami, aussi connue sous le nom de « diviser pour régner ». Alors, donc, qu'est-ce que concrètement ça veut dire, ce genre de choses? Parce que moi, je trouve assez rigolo comme la géopolitique peut devenir absolument concrète. Donc, alors, Xi Jinping est venu pendant 48 heures à Prague, et qu'ont-ils fait? Alors, ils ont bu des bières, certes. Ils ont planté un ginkgo biloba, qui est un petit arbre. Certes. Xi Jinping a reçu les clés de la ville par la mère Adriana Krnakova. Certes. On a donné, alors ça j'y ai assisté, c'était intéressant, on a donné un feu d'artifice en l'honneur du président chinois. Un truc, mais absolument scandaleux. Genre, ça a duré, je pense, 15-20 minutes. C'était magnifique. C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Et franchement, le premier août en Suisse, ça, c'est sympa aussi. Hein. C'est assez joli. Mais alors là, c'était vraiment du léchage de cul pyrotechnique. C'était absolument scandaleux. Et en plus, pour des raisons de sécurité, le président n'a même pas pu y assister. Alors au final, c'était vraiment un show pour montrer au reste de l'Europe et aux États-Unis, même s'ils s'en foutaient sûrement un peu du feu d'artifice, que la République tchèque était prête à dépenser des centaines de milliers de couronnes tchèques pour un feu d'artifice, pour en retour, en fait, nouer ce partenariat avec la République tchèque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Qu'est-ce qui a été ce retour? Eh bien, plus de 30 contrats ont été signés, en tout d'une valeur de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Alors, c'est quand même un bon retour sur investissement du feu d'artifice, je trouve. Donc, dans les secteurs du tourisme, de l'énergie nucléaire, de l'industrie et de la finance. Alors, dans les temps qui courent, c'est-à-dire dans des temps où la cohésion européenne est mise à mal par énormément de challenges, c'est assez malvenu, disons, pour Bruxelles, de commencer à voir ses flancs à l'est s'effriter un peu au profit d'influences qui ont plus d'argent. Alors, affaire à suivre, mais c'était vraiment, une visite qui cachait beaucoup plus de choses que simplement, voilà, ils se sont serrés les poings comme ça. C'est des luttes de pouvoir géopolitique hyper importantes et hyper intéressantes, en fait, qui se jouent à coups de Ginkgo Balboa et de feux d'artifice. Alors Yann, je te passe le micro, maintenant on va revenir à des ambitions un peu plus réduites, on va arrêter
la
de
Suisse.
Parler de l'ordre géopolitique du monde, et on va parler disons du grand maître du monde, qui reste dans l'ombre, hein, mais qui contrôle tout, qui est là, qui domine tout, et ce sont évidemment nos compatriotes helvétiques.
La Suisse donc, pour beaucoup encore, c'est un paradis fiscal où règne le secret bancaire, mais plus maintenant hein. Maintenant, on a signé des accords qui rendent automatique le partage de certaines informations avec des pays comme les États-Unis d'Amérique ou l'Allemagne, afin de traquer d'éventuels contribuables fraudeurs. Non, aujourd'hui, la Suisse est un pays propre sur lui. Hein ? Oui ? Oui ? D'ailleurs, comme tous les autres pays, on s'indigne des révélations apportées par les Panama Papers. Ouh, pas bien ! On n'oserait pas faire ça, nous ! On n'oserait pas le tolérer ! Quoique, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, c'est la révélation d'un système d'évasion fiscale à travers le Panama. L'idée, c'est de planquer de l'argent dans une société au Panama où les impôts ne dépassent pas le joli taux de 0%. C'est joli, zéro, c'est rond, c'est simple, c'est presque sexy. Bref, vous faites créer votre boîte au Panama par un cabinet d'avocats, par exemple Fonseca. Il s'occupe de trouver un homme de paille qui jouera le rôle d'administrateur pour une misère. Votre nom apparaît absolument nulle part, mais votre argent s'y retrouve bel et bien au chaud. Ensuite, on vous envoie une jolie carte de crédit, puis voilà, vous dépensez votre argent comme bon vous semble, à Paris, à Genève, à Rome ou à New York, alors même qu'il dort dans un bon gros paradis fiscal. Agréable, efficace. Efficace jusqu'à ce qu'un consortium de journalistes d'investigation mette la main sur une gigatonne de documents appartenant à un de ces cabinets d'avocats panaméens. Les journalistes ont travaillé, trié le vrai du faux, et ont fini par publier les résultats de leur enquête. Des chefs d'État sont épinglés, comme le premier ministre islandais Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, et j'ai le massacré, ou le premier ministre et premier robot à être fait citoyen britannique David Cameron, mais aussi des chefs d'entreprise, des médecins, des élus locaux, etc. Gros scandale, tout le monde en parle, il reste encore plein de choses à annoncer, à déballer dans cette énorme masse de documents. Bref, c'est la grosse affaire du moment. Et au milieu de tout ça, tout le monde propose de durcir les lois, de remettre le Panama sur la liste des paradis fiscaux, même si on venait de l'y enlever pour on ne sait quelle raison fumeuse. Je te vois, la France. Tout le monde ? Tout le monde ? Non. Un petit pays montagneux résiste encore et toujours à la pression mondiale sur la question fiscale. La Suisse, bien sûr !
Oui, enfin, résister... Vite fait, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même perdu toute une partie de notre identité nationale depuis que le secret bancaire a été détruit.
Tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, alors peut-être.
C'est par la voix de notre nouveau conseiller fédéral en charge des finances, l'UDC Auli Maurer, que la position de la Suisse s'est fait entendre. Selon M. Maurer, et je ne déconne pas, la Suisse doit garantir des possibilités pour les plus riches d'investir offshore. Je cite, « On doit créer des possibilités. Je ne suis pas riche, mais sans les riches, je devrais payer plus d'impôts. » Un argumentaire qui ressemble beaucoup aux excuses de M. Cameron, qui, quelques jours plus tôt, déclarait que si les Anglais payent peu d'impôts, il s'attend à ce que tout le monde les paye. « J'ai fait des erreurs », a dit Cameron, « et je vais apprendre. » Dommage qu'il n'ait pas appris les réformes fiscales et les coupes budgétaires qu'il a lui-même forcées à travers la gorge des Anglais. Pour revenir à Auli Maurer, le ministre des Finances suisse a terminé sur la question en déclarant que la masse de règlements en vigueur est complètement suffisante quant au blanchiment de l'argent. Oui, parce qu'évidemment, le blanchiment est le seul problème qui puisse exister. Nous ne devons pas être les plus moralistes au monde, conclut-il. Et là-dessus, honnêtement, je te rassure, Auli, avec ce que tu viens de balancer, faudrait être complètement débile pour te traiter de moraliste.
Oui. Bon, alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il racontait à qui veut bien l'entendre que lui, il n'était pas riche, alors que franchement, le salaire d'un conseiller fédéral, Alors, c'est bien sûr, ça n'a rien à voir avec, avec le CEO de Nestlé ou bien, je sais pas, président de la FIFA à tout hasard, mais c'est quand même une somme tout à fait, confortable, voilà, confortable.
Exactement, et puis c'est bien parce qu'on reparlera des salaires des conseils fédéraux plus tard dans cette émission, mais tout d'abord, tu nous envoies sur les religions en Suisse, et j'imagine que ça doit être tendu, comme je l'ai vu dans ton fil d'actualité Facebook.
Oui, alors je me suis fait avoir cette semaine, j'ai craqué, j'ai commenté. J'ai commenté sur Facebook, ça faisait bien longtemps que j'avais plus fait ça, mais je regrette rien, et je suis en train de gagner la bataille de likes, alors je suis contente. Mais pourquoi est-ce que j'ai commenté sur Facebook? Voilà, ça c'est une bonne accroche pour l'auditeur. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui a voulu me faire enfin commenter sur Facebook sur un, donc pas uniquement chez mes amis, donc sur le site de la RTS, notre conglomérat médiatique national. C'est-à-dire qu'en Suisse, nous avons connu une controverse qui, de façon assez surprenante, a pris des proportions internationales. Alors ça n'arrive pas souvent, donc on en est très fiers. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais pour ceux qui ont eu la chance de passer à côté de cette espèce de paranoïa, je vais vous donner un petit résumé. Dans le joli canton de Bâle-Campagne se trouve une ville du nom de Terville. À Terville se trouve une école, dans cette école se trouvent des élèves. Et il se trouve qu'en Suisse, nous avons dans certaines écoles ce qui a été appelé une tradition, selon laquelle les élèves doivent serrer la main, enfin les élèves serrent la main, disons, de leur professeur lorsqu'ils entrent en classe et lorsqu'ils en sortent. Dans le mois passé, deux élèves de l'école de Terville ont contacté la direction de l'école pour demander d'être dispensés de serrer la main du personnel féminin au nom de leurs convictions religieuses musulmanes. Bon, alors vous vous dites bien que selon le climat actuel qui est tout à fait favorable aux musulmans, hein, ça aurait dû passer, de façon un peu comme ça, en cachette.
Discrète.
Voilà, discrètement, et l'école a trouvé un compromis un peu mou, disons. Mais alors donc ce qu'ils ont appelé en fait un compromis temporaire, c'est-à-dire que les élèves devront saluer verbalement et poliment tous leurs professeurs. Donc, hommes et femmes, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus soumis à cette espèce d'obligation tacite qui n'était pas vraiment une obligation, mais une tradition, mais plutôt un usage. Enfin bref, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Toujours est-il que le message qui en est sorti, c'est que ces élèves ne seront plus contraints de serrer la main du personnel enseignant féminin. Catastrophe, invasion, révolution, attaque sur nos valeurs. Enfin, on a eu droit à une avalanche de je sais même pas comment appeler ça, de conneries qui en fait revenaient toutes sur l'idée que tout à coup ce qui faisait l'identité suisse, ce n'était plus la démocratie directe, ce n'était plus la neutralité, ce n'était plus même notre amour invétéré du compromis qui nous vaut une réputation de mollachon dans le monde entier. Non, tout à coup être suisse, c'était serrer la main à ses profs. Et c'est tout ce qu'on était, on n'est plus rien d'autre. C'est-à-dire que pour arrêter d'être suisse, c'est très simple, ne serrez plus la main, et on va vous traiter de d'islamiste radical.
C'est dommage parce qu'il y a une vraie conversation derrière sur les traditions religieuses en général et sur leur influence par rapport notamment au sexisme, qui est une vraie conversation intéressante et qui ne touche certainement pas que la religion musulmane.
Non, absolument, mais ce que je trouve incroyable dans toute cette histoire, c'est que ça ait pris les proportions que ça ait pris. Alors évidemment, en fait, le problème de base, c'est quand même que l'école a décidé en fait de faire une décision un peu, ouais, c'est même pas un compromis, je sais pas, c'est un truc un peu lâche comme ça,
mais c'est comme toutes les écoles,
on sait pas quoi faire, alors on fait ça et puis on le dit à personne. Et forcément, ça a explosé à leur gueule.
Je l'ai connu quand j'étais à l'école. C'est les écoles qui savent absolument pas quoi faire avec un problème, que ce soit un élève violent ou que ce soit des trucs un petit peu plus compliqués comme ceci. Et vu qu'ils savent absolument pas quoi faire, ils font de la merde. Et ça, j'ai eu à le supporter pendant toute ma scolarité. Et c'est toujours. C'est marrant de voir que c'est toujours aussi invraisemblable, peu importe le canton, peu importe la situation.
Alors, ce qui s'est passé, du coup, c'est que en fait, l'information qu'ils avaient trouvé, ce compromis selon lequel les deux élèves étaient exemptés de serrer la poignée de main, forcément a atteint les oreilles des grandes autorités. Donc ça a atteint le canton, ça a atteint le gouvernement. Alors notre ministre, elle est plus présidente, donc la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a expliqué, c'est elle qui a dit au départ, en fait, la poignée de main fait partie de notre culture. Alors oui et non, enfin je veux dire, Franchement, je m'en fous. Je suis désolée.
Elle fait partie des coutumes, elle fait pas partie de la... Enfin, faudrait arrêter.
Évidemment.
C'est genre, t'as pas des fresques au palais fédéral avec des gens qui se serrent la main.
Voilà, enfin, je veux dire, c'est ça. Quand tu demandes ta naturalisation suisse, t'as pas des examens de poignée de main où on t'explique qu'il faut serrer fermement et puis faire un ou deux allers-retours en regardant ton interlocuteur dans les yeux.
Avec des secret handshakes.
Voilà, alors on a réduit ce débat à des questions de être suisse versus ne pas être suisse, et puis personne ne parle de la mission d'intégration de l'école, personne n'a parlé de discuter avec les élèves, personne n'a parlé de discuter avec la famille tout de suite parce que c'était des musulmans, alors on a créé une affaire d'État comme quoi ces deux pauvres gamins de 14 et 15 ans qui sont très certainement manipulés ou en tout cas poussés à se comporter d'une certaine manière, que ce soit par leur famille ou par une communauté qui est derrière eux. Alors tout à coup, on a stigmatisé ces enfants comme si c'était le diable en personne et que le fait qu'ils demandent cette chose allait renverser toute l'histoire et les valeurs suisses comme si voilà deux ados qui faisaient une version un peu musulmane de leur crise d'adolescence aller renverser un pays. Non mais les gars, il faut se calmer un peu.
Ce qui est très intéressant avec ce sujet-là, c'est qu'on verra dans les commentaires si jamais il y a soit aucune réaction parce que tout le monde est chill par rapport à la façon dont on a présenté les choses, soit on va se prendre un torrent de merde et ça va être drôle à modérer. Enfin, bref.
Alors enfin, moi je trouve, c'est très bien si les gens veulent faire des commentaires, mais il faut bien savoir que... Alors après, à titre personnel, si on me demande, évidemment, parce qu'on va toujours arriver à ce point-là, genre, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Alors, moi, je pense que voilà, s'ils sont dans une école qui demande de serrer la main, en tout cas d'accepter de changer les us et coutumes d'une école, non pas d'une culture, non pas d'une religion, non pas de valeurs occidentales et d'autres conneries de ce genre-là, dans le sein de l'école, eh ben, c'est à l'école de décider et c'est à l'école d'être ferme par rapport à ce qu'ils veulent enseigner comme valeur ou non. Et voilà, s'ils enseignent une certaine obligation de se comporter par rapport au professeur d'une certaine manière, et ben tout le monde doit être à la même enseigne, point final. Mais il faut arrêter de me dire que ça a à voir avec l'identité suisse, non mais, ou l'identité chrétienne, enfin c'est... Bref, c'est...
Tu connais l'histoire, une fondue, un serrage de main, c'est...
Voilà, enfin je veux dire, bientôt on va manger que de la fondue à la récré et puis griller les cervelas, enfin pour les cervelas en course d'école, c'est déjà le cas, il faut avouer, mec.
Mais, tu vois.
Mais ok, c'était pas l'exemple le plus parlant.
Ça te trahit.
Je me suis fait trahir par nos propres traditions suisses. Non, mais enfin, tout ça pour dire que à mon avis, l'école a une mission d'intégration et d'ouverture qui va beaucoup plus loin que de déterminer qui est un bon Suisse et qui n'est pas un bon Suisse. Le but de l'école n'est pas de créer des bons Suisses, c'est de créer des bons citoyens du monde, c'est de créer des bons êtres humains, c'est de créer des gens ouverts et des gens éduqués et qui ont un esprit critique sur les choses. Ça n'a rien à voir avec genre, une espèce de clash des civilisations, enfin.
Mais ça n'engage que toi.
Voilà, enfin. Mais c'est ce qui est rigolo, c'est que cette polémique a vraiment, vraiment atteint les médias internationaux, tout ça parce qu'on est dans une époque qui stigmatise l'islam. Enfin, qui stigmatise 1 milliard de musulmans comme si c'était tous des terroristes qui étaient prêts à décapiter des enfants juste après ne pas avoir serré la main de leur maîtresse. Enfin bref, c'est un peu... c'est assez surprenant, enfin, de surprenant, je sais pas, mais c'est vraiment fatigant de voir comme les gens peuvent se prendre la tête et de faire des montagnes avec des petites choses comme ça. Enfin bref, moi, ça me fatigue. Alors, je me réjouis que vous débattiez avec ardeur dans nos commentaires, mais oui, moi je suis un peu fatiguée, franchement.
Allez, est-ce que tu veux des vraies traditions, Émilie?
Oui, donne-moi. Alors, des vraies traditions, des Edelweiss, s'il te plaît.
Non, c'est une tradition dans les Carrément Méchants, et c'est une tradition que j'aime honorer. On vous parle très souvent des résultats de votations fédérales. Les votations fédérales, vous le savez, c'est quand tout le peuple suisse vote pour ou contre une modification de la Constitution ou une modification de la loi votée par le Parlement, mais remise en question par un nombre suffisant de citoyens. Pour être honnête, on vote beaucoup, 4 fois par an environ,
une fois tous les 3 mois. Et figurez-vous que les objets, c'est-à-dire les questions auxquelles le peuple aura à répondre pour la prochaine fois, bah, les objets, les prochains objets viennent de tomber. Sur quoi voterons-nous le 5 juin 2016? Eh bien, sur 5 objets, je l'ai dit, à commencer par l'initiative populaire du 30 mai 2013 en faveur du service public. Alors, cette initiative, elle vise l'introduction d'un nouvel article dans la Constitution. Cet article 43B, attention, accrochez-vous à vos petits livrets rouges, se rattache aux articles 43 et 43A, jusque-là, pas de surprise, qui s'occupent des responsabilités étatiques que doivent assumer les cantons et à leur méthode d'attribution. Bref, ce nouvel article 43B introduirait plusieurs dispositions pour renforcer le service public, à savoir que dans le domaine des prestations de base de l'État, l'État ne vise pas de but lucratif. Ça le met noir sur blanc. Que ce principe s'applique également aux entreprises qui accomplissent des tâches déléguées par l'État et que les honoraires des salariés de ces entreprises ne doivent pas dépasser ceux des fonctionnaires de l'administration fédérale accomplissant des tâches équivalentes. De plus, cet article prévoit la transparence des coûts dans le domaine des prestations de base. Dedans, donc, on inclut les sociétés anonymes de droit public telles que la Poste Suisse, les CFF, donc les chemins de fer fédéraux, et Swisscom, qui est à la fois notre FAI, téléphone, etc. C'est l'équivalent d'Orange en un petit peu plus public, en un peu moins privatisé. De fait, accepter cette loi permettrait de faire revenir ces sociétés qui sont à cheval entre le privé et le public un petit peu plus vers le secteur public. Résultat amusant, ça voudrait aussi dire que les chefs d'entreprise de la Poste, des CFF ou de Swisscom ne pourraient plus avoir de salaire dépassant celui de leur conseiller fédéral de tutelle dans les télécommunications ou dans les transports. On se doute que ce texte ne leur plaira pas. Deuxième initiative, c'est celle du 4 octobre 2013 pour un revenu de base inconditionnel. Ça y est! Au tour de la Suisse de s'exprimer pour un revenu de base. Alors oui, le texte proposé par les initiants n'est pas très précis. Mais en gros, il serait question d'accorder la somme de 2500 francs par mois pour les majeurs et 625 francs par mois pour les mineurs. Comparé au coût de la vie dans les grandes villes du pays, pour un major vivant seul, c'est franchement pas énorme du tout. Attention, cette somme n'est pas dans le texte de révision de la Constitution, mais c'est le scénario le plus souvent évoqué par ceux qui le proposent. Cela coûterait donc 200 milliards de francs environ, 70 seraient piochés dans les caisses des prestations sociales existantes, donc l'AVS, l'AI, le chômage, AVS c'est l'assurance vieillesse survivant et l'AI c'est l'assurance invalidité, pour ceux qui ne connaissent pas ces magnifiques caisses, et directement versé donc à ceux qui les ont cotisés, ces différentes caisses, mais cette fois-ci au titre de revenus de base, tandis que 130 milliards restants seraient couverts par les revenus touchés quand on travaille. En gros, l'idée est que ceux qui touchent moins de 2500 francs par mois recevraient un complément leur permettant d'atteindre 2500 francs, et que ceux qui gagnent plus de 7000 francs par mois voient leur premier 2500 francs désignés comme le revenu de base inconditionnel qu'ils se sont payés eux-mêmes, une somme en dessous de laquelle ils ne pourront jamais tomber au cas où leur revenu disparaîtrait ou baisserait pour X ou Y raison. Reste que si cette initiative passe la rampe, ce qui est en soi assez improbable vu les équilibres politique en Suisse, on attend de voir le Parlement mettre en place un système aussi généreux alors qu'il pourrait très bien introduire un revenu de base beaucoup plus bas, donc moins complexe à mettre en place, vu que, encore une fois, le texte constitutionnel proposé est le plus vague du monde possible. Il dit simplement qu'il faudra mettre en place un revenu de base, peu importe lequel. Troisième initiative, c'est la dernière des 5 objets, celle du 10 mars 2014 pour un financement équitable des transports. Alors, elle est chiante à mourir cette initiative. Cette modification de la Constitution limiterait l'usage des impôts sur les carburants hors carburant d'avion, j'adore la précision, et des autres redevances liées aux routes nationales pour payer la construction, l'entretien et l'exploitation des routes nationales, pour payer le financement des mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés, donc tout le monde dans la même bagnole, pour payer des mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, donc pour payer le signal stop que vous voyez au bout du chemin, et pour payer des contributions destinées aux routes principales, ce qui est un petit peu répétitif par rapport à l'alinéa A, mais bon, on va dire qu'on n'aura pas vu. C'est pas très passionnant, ça se jouera potentiellement à qui mobilisera le mieux dans les urnes. Je pense pas que les principaux partis vont mettre énormément de thunes derrière pour la campagne. C'est vraiment l'objet lame duck qui est jeté avec le reste et qui sera décidé un petit peu à pile ou face.
Et alors, oui. On aura une votation intéressante, mais je sais pas si. Non, ce sera pas aux prochaines votations en fait, mais ça on peut en parler quand même.
Oui, mais alors, j'ai encore 2 objets pour le coup.
Ah, pardon. Ah, désolé.
Désolé, j'avais dit 5, on en a fait 3. Ah, il en reste 2, accrochez-vous, ils sont pas trop longs.
Je m'excuse.
Tout d'abord, deux modifications de loi en fait. La modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la LPMA, c'est la continuité du vote sur le diagnostic préimplantatoire, le DPI. L'idée de ce référendum est de permettre de faire la sélection des embryons avant de lancer la grossesse, dans le but d'éviter les complications et la transmission des maladies génétiques héréditaires. La votation précédente sur le même sujet a été acceptée. Là, il est question de faire sauter les verrous qui empêchent sa mise en place. Ça a de grandes chances de passer. Et enfin, la modification du 25 septembre 2015, c'est récent, oulala, de la loi sur l'asile. Et c'est reparti pour un nouveau vote sur l'asile. Mais attention, ce n'est pas une initiative UDC, c'est un référendum provoqué par l'UDC quant à une disposition prise par le gouvernement. Si la loi est conservée, donc si l'UDC perd son combat, alors l'État pourra mettre en place une procédure d'asile plus rapide, amenant à des décisions rendues plus vite, mais aussi un renforcement de la protection juridique des demandeurs d'asile, qui ne seraient pas payés plus car ils sont rémunérés au dossier. Des sanctions plus efficaces contre les cantons qui n'appliquent pas le droit fédéral sur l'asile à la lettre, et la mise en place de centres fédéraux pour centraliser les démarches. Quel qu'en soit le résultat, ce référendum est un test pour l'UDC, un test très important. Il s'agit là d'une de leurs thématiques phares, et avec leur dernier échec sur l'initiative de mise en œuvre lors des votations de février dernier, c'est le moment de voir si le peuple décide de re-soutenir l'UDC ou s'il s'est lassé pour de bon du tonitruant parti de droite populiste. Et donc tu nous disais, Émilie, que tu as dans les starting blocks un autre référendum
oui,
qui nous attendra
Alors un truc qui va certainement mobiliser les foules et réveiller les passions de la même façon que savoir si fait partie de la culture suisse le serrage de main, nous allons pouvoir voter sur quelque chose de beaucoup plus important. Nous allons pouvoir voter si, oui ou non, les vaches doivent avoir des cornes. Je ne rigole pas. Non, nous allons littéralement devoir voter sur l'écornage des vaches. L'initiative va être déposée à la chancellerie, a été déposée le 23 mars. Et du coup, nous allons voter peut-être l'année prochaine là-dessus.
C'est tout aussi con que d'avoir mis dans la Constitution que l'éducation et la musique étaient garanties. C'est con.
Alors bienvenue en Suisse. La démocratie directe, c'est merveilleux. Vous êtes jaloux, hein, vous voulez la même chose. Vous aussi, vous voulez voter pour savoir si les vaches doivent avoir des cornes ou non. Hein, et mobiliser 8 millions de personnes, tout ça pour genre... Enfin, bref, alors on peut en discuter un peu. C'est-à-dire qu'il y a les pour-cornes, les pro-cornes, qui disent qu'une vache heureuse est une vache à cornes. Et que l'écornage... rend les vaches malheureuses. Et ensuite, il y a les anticornes, c'est-à-dire c'est une pratique assez généralisée actuellement qui explique qu'on écorne les vaches quand elles sont sous anesthésie et c'est uniquement, en fait, une fois qu'elles sont complètement endormies, on brûle avec un fer l'endroit où la corne va pousser, ce qui prévient la croissance de la corne. Et la vache, ensuite, continue sa vie et elle en a plus ou moins rien à foutre de si elle a une corne ou non. Mais nous allons tous voter là-dessus l'année prochaine, ça va être merveilleux.
Il n'y a pas d'intérêt à ce genre de choses. Je trouve que c'est dévoyer l'initiative populaire qui, au-delà de ça, est un très bel outil que le monde nous envie.
Oui, ça, c'est les problèmes de la démocratie directe. Hein. Il suffit qu'il y ait un pelé qui soit assez pénible pour réussir à convaincre 100 000 citoyens dans une période limitée de signer son texte, et on peut voter sur plus ou moins n'importe quoi.
Honnêtement, je préfère encore voter là-dessus que sur les révisions annuelles de la loi sur l'asile ou de la loi sur l'assurance maladie, mais ça, c'est un autre problème.
Alors,
parce que ça, on en fait tellement, la lamale et la lacie, on les touche, mais genre, toutes les années, voire même encore plus souvent. Enfin, c'est ridicule.
Mais tout ça pour dire que la démocratie directe, c'est chouette, hein.
Exactement, et c'est sur ces bonnes paroles que se termine le 22e épisode de Carrément Méchant du 13 avril 2016. Merci beaucoup, Émilie, de l'avoir réalisé avec moi.
C'est toujours un plaisir de t'avoir...
Eh bien, écoute, il est partagé.
Mais très bien.
À notre écoute.
Arrête.
On a donné pas mal d'opinions à nous de cet épisode-là.
Oui,
on s'est pas mal lâché.
Cette fois, on vous attend. Alors, on vous attend au tournant. On veut vos commentaires. On veut que vous soyez pas d'accord avec nous. On veut que vous nous insultiez un peu.
Que vous nous traitiez de bobos parisiens alors qu'aucun de nous deux habite à Paris. Ce que
voilà.
J'adore.
Ça serait cool, franchement.
Ah, mais c'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui nous ont traités de bobos parisiens. Hein.
Oui, ah, oui, c'est vrai.
C'est fantastique.
C'est presque un compliment de la part de Français, non ?
Non, enfin, c'est pas voulu comme un compliment, mais après, tu peux toujours le prendre comme un compliment si t'as envie de le prendre comme un compliment. Hein.
Alors, on verra quel genre de compliment ou d'insulte vous allez nous réserver dans les commentaires. En tout cas, on se réjouit de vous lire et on vous remercie de nous avoir écoutés. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Et puis d'ici là, portez-vous bien, serrez des pognes à qui vous voulez. Et bonne soirée, quoi. Bisous.
Bonne soirée, quoi. Je suis tellement fatigué, putain.
Oui, moi aussi. Je suis navré. Attends, on claque des mains, du coup.
Ouais, 3, 2, 1... Macarena.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
Ah, cachez vos enfants, ils arrivent.
Radio Kawa présente LOL Japon.
Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.